Radio Okapi. Le journal Blaise Chindali.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin dont voici les titres. Selon un rapport publié samedi par le gouvernement de la République, plus de 17 000 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique sont recensés dans la partie sous occupation rebelle en l'espace d'une année. Judith Souminois salue cette initiative qui soutient les démarches diplomatiques et judiciaires du gouvernement congolais. La Banque centrale du Congo a signé un contrat stratégique avec l'entreprise DRC Gold Mining SA pour renforcer la constitution des réserves de la RDC en or monétaire. Selon le gouverneur de la Banque centrale, c'est pour consolider la stabilité macroéconomique et l'indépendance monétaire de la RDC. L'invité de ce journal, c'est Mamouna Ouédraogo, inspectrice générale de police et chef de la police de la MONUSCO. Elle parle des défis auxquels fait face la PNC dans un environnement marqué par l'insécurité ainsi que l'importance de l'appui de UNPOL à la PNC pour renforcer la protection des civils dans les zones de Beni, Butembo et Lubero régulièrement touchées par la violence. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal du matin de ce lundi 23 février. Au moins 17 015 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique recensés dans la partie sous occupation rebelle en l'espace d'une année selon un rapport du gouvernement central publié ce samedi à Kinshasa. Sur ces cas, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a signalé 15 769 cas d'atteinte à la vie, 829 cas d'enlèvement, 417 cas de torture et autres traitements inhumains dans cette partie du pays. La première ministre salue cette initiative qui soutient les démarches diplomatiques et judiciaires du gouvernement congolais. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans sa prise de parole, le ministre des Droits humains a signalé que ces violences ont occasionné environ 7 400 déplacés internes et externes au nord et au sud Kivu. Ces membres du gouvernement ont rendu hommage aux défenseurs des droits de l'homme, aux délégués des différents ministères ainsi qu'aux acteurs de la société civile ayant contribué à la rédaction du dit rapport. Il a également salué leur courage, soulignant qu'ils ont bravé la peur pour réaliser ce travail. Pour sa part, la première ministre a exprimé sa satisfaction de la rédaction du rapport sur la situation des droits humains dans l'est du pays. Judith Souminois précise que ces documents constituent un outil stratégique et juridique majeur pour étayer les démarches diplomatiques et judiciaires engagées par les gouvernements congolais. Elle a à cette occasion salué la lucidité et l'engagement du ministre des Droits humains Samuel Mbemba, qu'elle a remercié pour sa contribution active à ces combats initiés par le président de la République. Cette forte mobilisation témoigne de la volonté des autorités du pays de faire de la question des droits humains une priorité nationale et de porter la voix des victimes sur toutes les tribunes, tant nationales qu'internationales.
Malgré le cessez-le-feu annoncé pour le 18 février à midi, les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié vendredi 20 février, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent l'armée rwandaise et ses alliés de l'AFC M23 d'avoir attaqué plusieurs de leurs positions au nord Kivu et au sud Kivu. Les FARDC dénoncent une violation de la trêve proposée par le président angolais João Lourenço et affirme rester engagé dans le respect du cessez-le-feu. Plus de détails avec Grâce Hamzati Masanzi.
Dans ce communiqué, les forces armées de la RDC affirment que leurs positions ont été attaquées les 18 et 19 février dans plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu. Des éléments de la force spéciale de l'armée rwandaise et des combattants de l'AFC M23 ont mené des attaques simultanées notamment à Ihula, dans le territoire de Walikale, ainsi que sur plusieurs collines du territoire de Rutshuru. Dans le Sud Kivu, les FARDC accusent les forces armées rwandaises RDF, M23 et leurs alliés d'avoir attaqué plusieurs villages dont Mikenge et Kalonge dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, mais aussi dans les localités de Kahungwe, Kanga et Lugeje. Dans cette zone, 4 maisons ont été incendiées et un jeune homme de 18 ans tué à son domicile, précise le communiqué. L'armée congolaise estime que ces incursions visent à torpiller le processus de paix en cours. Tout en dénonçant ces attaques, les FRDC réaffirment leur engagement à observer le cessez-le-feu proposé par les médiateurs angolais en vue de faciliter le retour de la paix dans l'est du pays et dans la région des Grands Lacs.
Parlons à présent de l'ouverture ce lundi à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, du forum provincial sur la problématique des ADF. Prévu pour 3 jours à l'initiative du gouverneur militaire, le général Évariste Kakule-Somon, ces assises réunissent les autorités à tous les niveaux, les partenaires régionaux et internationaux, la société civile, les leaders communautaires, ainsi que des experts, des jeunes et des femmes. Objectif, analyser les causes et les conséquences du phénomène ADF, renforcer la coordination des actions et proposer des réponses durables pour la paix dans un contexte où les ADF continuent de tuer des civils malgré plus de 10 ans d'opérations militaires. Les explications avec Martial Papimukeba.
Depuis 2013, les ADF auraient causé la mort de 13 000 à 18 000 civils dans les Nord Kivu et en Ituri, selon des sources de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme. La région est également confrontée à de nombreux enlèvements et à des attaques et a entraîné l'incendie des véhicules de transport, des maisons et des structures sanitaires. Des milliers de civils ont été contraints de fuir, plongés dans les déplacements et l'insécurité. Pourtant, depuis 13 ans, plusieurs opérations militaires des FRDC, parfois conjointes avec la MONUSCO, ont été menées. Depuis 4 ans, d'autres sont conduites avec l'armée ougandaise UPDF. Malgré ces efforts, la menace persiste, renforcée par l'allégeance des ADF au groupe terroriste de l'État islamique. Premier du genre au niveau provincial et national, ce forum doit examiner en profondeur la violence ADF et proposer des stratégies concertées pour leur neutralisation définitive. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, la non-réouverture à Kisangani de bureaux de fonds de réparation d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC inquiète la communauté des bénéficiaires de ces fonds. En dépit de la réhabilitation du comité de gestion en décembre dernier, après quasiment un an de suspension, les membres de cet organe continuent à rester à Kinshasa. C'est ce qui a poussé les victimes de guerre de Kisangani à manifesté le 17 février dernier. Dans un communiqué de presse publié le 20 février courant, le député national élu de Kisangani, Patrick Matata, attribue cet état des choses à l'immixtion du ministère de la Justice dans la gestion courante de cet établissement public à caractère social. Les explications avec Jacques Mukonkole.
Dans ce communiqué, le député Patrick Matata fait savoir que l'article 4 du décret instituant le FRIVAO proclame son indépendance, l'équité et la transparence dans la gestion des fonds reçus de l'Ouganda. En violation de l'article 3 du décret fixant son siège à Kisangani, les organes de gestion du FRIVAO ont déserté leur bureau et se retrouvent à Kinshasa. Face à cette situation, le député Patrick Matata recommande notamment le respect d'indépendance, d'équité et de transparence afin de restaurer la confiance des populations et éviter les dérives administratives. Il exige également l'ouverture des bureaux de FRIVAO à Kisangani et la poursuite du processus d'indemnisation jusqu'à l'épuisement de toutes les victimes identifiées. L'extension des activités de FRIVAO à Buta, Isiro et Bunia est également recommandée. Il en est de même du lancement des indemnisations collectives, spécialement la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Rappelons que lors de sa rencontre avec le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le 19 février dernier, Dismas Kitenge, président du conseil d'administration par intérim, a déclaré que le FRIVAO va reprendre ses activités le 1er mars prochain. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a signé le vendredi 20 février à Kinshasa un contrat stratégique avec l'entreprise DRC Gold Mining SA pour renforcer la constitution des réserves de la RDC en or monétaire. Selon André Wameso, il s'agit d'une étape majeure inscrite dans les prérogatives de la BCC pour consolider la stabilité macroéconomique et l'indépendance monétaire de la RDC. Aussi, précise-t-il, une diversification des réserves d'échange permettra de lutter contre l'inflation et les crises géopolitiques et atténuera le risque lié à la dévaluation des devises fiduciaires. Les propos d'André Wameso ont été sélectionnés par Blaise Ndongala Mayanda.
banque. Parmi les prérogatives de la Banque centrale du Congo, il y a la constitution des réserves internationales, constituée également de l'or monétaire. C'est pour cela que nous avons signé un contrat avec la DRC Gold Trading. Ils vont acheter de l'or produit par les Congolais. Ils amènent cet or à la BCC qui va l'acheter et le met dans les réserves internationales de notre pays et notre monnaie devient forte. C'est pour que les Congolais se rendent compte que de par son travail quotidien, il renforce son économie, il renforce la stabilité de sa monnaie et il donne à son pays des moyens pour constituer les réserves sur lesquelles nous pouvons compter en cas de problème, notamment pour acheter à l'extérieur du pays de biens de consommation pour l'intérêt de notre population. Ce n'est pas une affaire de la BCC seulement, c'est une affaire de tous les Congolais. Quand nous le faisons, c'est pour une prise de conscience pour tous les Congolais, et notamment ceux qui œuvrent dans les secteurs de l'or, dans les coins reculés du pays, mais surtout pour éveiller la conscience des Congolais dans tous les secteurs productifs. Ça veut dire, si tu fais l'agriculture, si tu produis, tu renforces ton économie. Si tu as une petite entreprise et tu épargnes, tu renforces ton économie. Et si tu épargnes dans un compte bancaire et que tu as des intérêt, tu renforces également ton économie.
Ce contrat avec l'entreprise DRC Gold Mining SA, société congolaise à 100%, avec l'État comme actionnaire majoritaire, a été signé en présence de la ministre du portefeuille, Julie Chikou. Dans la province du Maniema, des cas de monnayage des numéros matricules de certains agents sont signalés à la division provinciale des finances. Une cinquantaine d'agents victimes de cette pratique ont saisi la justice ainsi que le bureau de l'inspection des droits de l'homme afin qu'ils soient remis dans leurs droits. La coordination provinciale aux droits de l'homme qualifie cet acte de criminel et appelle les autorités compétentes à sanctionner les coupables pour décourager ceux qui voudraient refaire ce genre de pratiques. Florence Kizalunga, reportage.
Tout a commencé après l'affiche de nom et numéro matricule des agents de la division de finances par les nouveaux chefs de division ayant constaté que leur numéro matricule est payé par l'État sont attribués à d'autres personnes. Ces agents ont saisi la justice et le bureau des inspecteurs de droits de l'homme afin que la lumière soit faite sur cette affaire. Crespin Muyololo est le coordonnateur de cette structure de défense des droits humains au Maniema.
Vraiment, c'est une situation scandaleuse au niveau de la division des finances où les gens étaient victimes d'une escroquerie à ciel ouvert occasionnée par l'ancien chef de division. Certaines victimes sont plaintes auprès de la justice. La raison pour laquelle nous demandons à la justice d'accélérer avec la procédure pour que ces victimes soient rétablies dans leurs droits, mais aussi à l'hiérarchie de la dite division de prendre des mesures contre ces hauts fonctionnaires car ce qu'il a fait s'appelle barbarie. Quand vous avez maintenant quelqu'un qui escroque, c'est que c'est toutes ces familles qui sont plongées dans la misère.
Le ministre provincial de finances affirme être préoccupé par la situation qu'il suit de près et exige que tous les coupables soient sanctionnés conformément à la loi. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a accordé jeudi dernier une audience au caucus des députés nationaux de l'OMAMI. Conduite par son président Augustin Mulumba-Kanza, la délégation est venue porter la voix d'une province qui s'est dit totalement enclavée et en quête d'un accompagnement accru du gouvernement central. À l'issue des échanges, le président du caucus n'a pas mâché ses mots. La LOMAMI, selon lui, cumule le retard structurel depuis son avènement à la suite du démembrement des provinces du pays. On écoute Augustin Mulumba-Kanza dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
Nous avons cherché à rencontrer la première ministre chef du gouvernement pour les problèmes de notre province. Comme vous le savez bien, nous sommes une province totalement enclavée. Nous avons à maintes fois exposé les problèmes de nos différentes entités, dont notamment nos provinces. Aujourd'hui, d'une oreille attentive, elle nous a bien répondu et nous continuons à attendre. S'il faut bien le dire, la province de l'OMAMI a 5 territoires. Tous les 5 territoires et les 2 villes sont totalement enclavées. Aucune route asphaltée. Et plus aujourd'hui qu'avant-hier, il y a un drame mortel qui s'est produit parce que nous sommes restés dans un seul tunnel où il faut passer par les bacs à cabine pour arriver même dans les chefs-lieux de province, donc il n'y a pas de route. C'est une province qui existe depuis le démembrement. Et lorsque nous sommes démembrés du Kassai Oriental, nous sommes partis sans les patrimoines. Les patrimoines sont restés dans la province du Kassai Oriental. À côté, nous voyons les routes qui sont en train d'être construites. 150 km, on ajoute 25. Mais nous n'avions tout simplement que 15 km dans le cadre du projet Tchilo-Gilou. C'est comme ça que nous sommes venus rappeler à la première ministre, lui dire la quintessence du gouvernement à soutenir cette province. La première ministre nous a répondu positivement et nous attendons de belles réponses et la réaction spontanée de sa réponse qu'il nous a donnée aujourd'hui.
Dans un autre chapitre, après une année d'arrêt, les travaux de construction des trois châteaux d'eau dans le territoire de Demba, au Kasaï central, ont repris vendredi. Ces infrastructures, dont le taux d'exécution des travaux est déjà estimé à 70%, sont réalisées dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises, financées par la Banque africaine de développement. Objectif, améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations locales. La société civile du territoire de Demba salue cette reprise.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la traque des personnes homosexuelles s'intensifie. Depuis deux semaines, les arrestations se multiplient à travers le pays, parfois mises en scène sur les réseaux sociaux. Dernier cas en date, celui du TikToker Saliou Mbaye, connu sous le pseudonyme de Zalé, interpellé vendredi 20 février à la frontière sénégalo-gambienne alors qu'il tentait de quitter le territoire selon les autorités. Dans le même temps, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de loi pour durcir encore la répression.
L'invité.
Notre invité est Mamouna Ouédraogo, inspectrice générale de police et chef de la police de la MONUSCO, qui vient d'achever une mission de trois jours à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Elle revient sur les défis auxquels fait face la police nationale congolaise dans un environnement marqué par l'insécurité, ainsi que sur l'importance de l'appui de la police de la MONUSCO UNPOL à la PNC pour renforcer la protection des civils dans les zones de Boutembo, Beni et Lubero, régulièrement touchés par la violence. Mamouna Ouédraogo s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Madame Mamouna Ouédraogo, bonjour.
Bonjour.
À l'issue de votre mission à Beni et après vos échanges avec les gouverneurs du Nord Kivu ainsi que les responsables provinciaux de la police, quels sont, selon vous, les défis prioritaires auxquels la police nationale congolaise fait face dans les contextes sécuritaires actuels?
À l'issue de ma mission à Beni et des échanges fructueux que j'ai eu avec le gouverneur du Nord Kivu ainsi qu'avec les responsables provinciaux de la police nationale congolaise, il apparaît clairement que, en tout cas, les défis sont multiples. La police nationale doit faire face à une insécurité persistante qui est marquée par la présence de groupes armés dans la zone et également nous enregistrons des violences qui affectent directement les populations civiles. Donc, tout un ensemble de défis auxquels la police nationale est confrontée. À cela également, il y a les difficultés ou les contraintes opérationnelles qui sont liées particulièrement au manque de moyens logistiques, au manque de moyens techniques, ainsi que aussi la nécessité de formation du personnel. Le défi, en tout cas, majeur reste de consolider les capacités institutionnelles afin que cette police-là puisse réellement et pleinement assurer sa mission de protection des civils.
Alors, en quoi la coopération entre la MONUSCO, UNPOL et la police nationale congolaise peut-elle contribuer concrètement à renforcer la protection des civils, notamment dans les zones affectées par l'insécurité comme la région de Beni?
Il faut dire que cette coopération est très appréciable des deux côtés, tout d'abord pour commencer, et dire qu'elle constitue un levier important, essentiel dans le renforcement de la protection des civils. Concrètement, elle se traduit par plusieurs aspects, tels que par exemple les formations, les accompagnements en équipement ou en infrastructure, l'appui, conseil. Et dans les zones affectées par l'insécurité comme Beni, nous pensons en tout cas que cette coopération permet de développer des stratégies communes. Elle permet également d'améliorer la coordination des interventions PNC, UNPOL et souvent aussi avec d'autres acteurs comme les FRDC ou avec notre force, la composante militaire de la mission. Toujours dans le but de renforcer également aussi la confiance entre les forces de sécurité et les populations de Béni et que l'objectif, c'est vraiment que l'action policière doit être très efficace et plus proche des communautés, davantage orientée aussi vers la prévention que la répression.
La MONUSCO appuie la police nationale congolaise à travers des formations et des dotations en équipement, comme vous venez de le dire. Quels changements concrets attendez-vous de ces appuis dans le travail quotidien des policiers sur le terrain?
C'est d'améliorer les compétences des personnels de la police nationale congolaise, leurs compétences opérationnelles et professionnelles. Par exemple, quand on parle de maintien de l'ordre ou de la gestion des foules, quand on parle du respect des droits humains, quand on parle des investigations criminelles, on a beaucoup de cas de violences qui sont faites à l'égard des populations et aussi des violences sexuelles basées sur le genre contre les femmes et les filles. En tout cas, c'est aussi renforcer vraiment les capacités des personnels de la police nationale congolaise pour qu'elles puissent mieux prendre en charge tous ces différents cas que nous avons mentionnés plus haut.
Quel message souhaitez-vous adresser à la population du Nord Kivu qui vit dans un contexte sécuritaire encore préoccupant?
Le message reste un message de solidarité, d'espoir et d'encouragement, car nous savons tous que les citoyens y vivent dans un contexte sécuritaire préoccupant. D'énormes efforts sont faits par les autorités pour juguler ces différents défis sécuritaires et c'est vraiment les encourager à maintenir et à renforcer le partenariat, la collaboration, la coordination avec les forces de sécurité et les différentes autorités qui travaillent au bénéfice des populations.
Madame Mamouna Ouedraogo, merci.
Merci bien à vous.
C'était notre invité Mamouna Ouedraogo qui s'entretenait avec Marcia Papimoukeba et c'est ce qui met fin à cette édition du journal coordonné supervisé par Jude Mister Bilan Dankoumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net.